autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ? Comment la science infuse ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver pour notre première table ronde de la rentrée avec nos consoeurs et confrères de la presse scientifique qui sont venus comme chaque mois avec quelques exemplaires de leur magazine pour vous les faire gagner, chers amis auditeurs. Avis aux amateurs, vous êtes nombreux à vous suivre et on vous en remercie. Aujourd'hui, nous sommes en direct avec Caroline Tourbe de Science et Vie. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Philippe Ajot de La Recherche. Bonjour Philippe.
Bonjour à tous.
Philippe Hénarejos de Ciel et Espace. Bonjour, bonjour Philippe. Mathieu Novak de Science et Avenir. Bonjour Mathieu.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Bien contente de vous retrouver tous et toutes en forme sur nos ondes après cette pause estivale pour ouvrir de nouvelles fenêtres astronomiques sur les traces des ondes gravitationnelles, mais aussi des ondes radio autour de la question comment la science infuse et se diffuse dans vos magazines. Pour ce mois de septembre, nous nous interrogerons aussi sur l'épidémie de cancer et nous ferons le point sur les nouvelles pistes de recherche en santé mentale et psychique. À suivre aussi un loup éthiopien, une guerre acoustique et un soupçon de matière noire, de quoi nous donner matière à réflexion et à interrogation partagée. Bienvenue sur nos bonnes ondes. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse, on va peut-être commencer par un tour de table de rentrée. Quelles infos scientifiques, quelles découvertes, quelles problématiques, qu'est-ce que vous attendez finalement pour cet automne, Philippe Hénarejos, hein?
Oui, alors qu'est-ce que j'attends pour cet automne? Ben, c'est simple, il suffit de consulter les astres.
Savoir ce qu'il va y avoir, mais bien sûr.
Et donc le 11 novembre, il y aura un défilé, alors pas uniquement dans les rues en France, mais il y aura un défilé de la planète Mercure devant le Soleil. C'est un événement assez rare et c'est aussi l'occasion de voir cette petite planète qui est toujours très proche du Soleil et que très peu de gens ont vu finalement. C'est l'occasion de la voir à un nombre chinoise passer devant le Soleil. C'est un phénomène qui dure très longtemps. Ça commence à 12h35 TU. Alors, c'est visible depuis la France, depuis toute l'Afrique, une partie du Moyen-Orient, très bien visible dans toute l'Amérique du Sud et côte est des États-Unis. Ça arrive tous les quelques années, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, c'est un phénomène rare sans être rarissime. Et surtout, c'est l'occasion pour chacun alors, de mettre le nez à un télescope avec évidemment tous les dispositifs de protection contre la lumière solaire indispensables. Sinon,
oui, parce que ça se voit de jour, c'est
voilà,
pas de ça, nuit.
C'est devant le soleil, donc il faut faire très attention. On ne regarde pas ça comme ça à l'œil nu, n'importe comment. Il faut vraiment faire attention à avoir des filtres solaires qui protègent la vue. Il y a besoin d'une optique, c'est-à-dire qu'à l'œil nu, avec des simples lunettes d'éclipse, par exemple, Mercure est trop petite pour qu'on puisse la voir.
Par contre, il faut une lunette ou
voilà,
un télescope.
Ou même des jumelles, mais toujours avec ces protections contre la lumière solaire. Et j'invite tous les gens qui pourront avoir un ciel dégagé ce jour-là à regarder ce phénomène avec une pensée sur la détection des exoplanètes, parce que finalement, c'est à l'échelle de notre système solaire ce phénomène-là qui permet aux astronomes de voir les exoplanètes, de découvrir les exoplanètes autour d'autres étoiles. Les étoiles sont des points, mais en fait, c'est en passant devant leur étoile que ces planètes captent une partie de leur lumière, éclipsent une partie de leur lumière, et vous allez voir en regardant Mercure que c'est tout petit, et vous comprendrez mieux la performance des télescopes et des astronomes dans la détection de ces exoplanètes lointaines.
Donc Mercure devant le Soleil, le 11 novembre prochain, on va vous en reparler, chers voilà. amis auditeurs, et du coup on en profite pour faire un petit coucou à Christian Gbaba à Lomé, au Togo, parce que lui il va certainement, avec sa lunette astronomique,
il sera idéalement placé,
hein, pour l'avoir, mais il faudra bien qu'il mette des filtres. On va en reparler. Mathieu, on redescend sur Terre, au plus près, quoi. Non pas des vaches, mais des chiens. C'est
des
ça qui
chiens.
Nous intéresse.
Oui, moi,
hein,
ce que j'attends pour la rentrée, non, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des belles histoires de science. Et je vous en ai rapporté une de cet été. C'est, vous voyez votre chien, quand il vous regarde et qu'il veut vous attendrir, il lève les sourcils tout doucement, il fait les gros yeux. Eh bien, figurez-vous que des chercheurs de l'université de Portsmouth, au Royaume-Uni, ont découvert que les chiens ont un muscle spécialement pour lever les sourcils comme ça.
Pour nous attendrir.
Alors
hein.
voilà, en fait, c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que le loup a commencé à domestiquer pour devenir les chiens domestiques il y a à peu près 33 000 ans. Et il semblerait que les humains aient privilégié les chiens qui savaient lever comme ça légèrement les sourcils. Alors les chercheurs ont regardé la musculature faciale du chien, de tous les chiens, toutes les races et du loup. Et ils ont vu que chez le loup, il y avait juste quelques petites fibres musculaires au-dessus du sourcil, alors que tous les chiens, sans exception, avaient ce muscle qu'on ne connaissait pas et qui leur est propre.
Oh, magnifique histoire, voilà. On ne regardera plus jamais nos chiens de la même manière. Philippe Pageot, il ne s'agit pas de regard là, mais je crois que vous attendez quelque chose pour nos oreilles.
Exactement, en fait, à l'automne, ou disons d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, on attend l'ouverture de l'Institut de l'Audition à Paris, qui va être créé sur le modèle de l'Institut de la Vision, justement on parlait de regard également. Et donc l'idée là, c'est de mêler des médecins, mais aussi des chercheurs, des industriels, des acteurs d'innovation, des start-up, afin effectivement d'améliorer en fait pour les malentendants et les sourds tout ce qui tourne autour de l'audition, donc avec un slogan assez joli, faire que la surdité ne soit plus une fatalité.
Plus une fatalité, notamment aujourd'hui avec des technologies, avec on a moyen quand même de faire mieux entendre.
Il y a beaucoup de choses qui se font sur le plan génétique évidemment, mais également sur le plan technologique avec l'intelligence artificielle qui est en train de rentrer là-dedans aussi. Donc cet institut va ouvrir ses portes à l'automne et on en attend beaucoup.
À suivre donc autour de la question comment la science infuse et se diffuse dans les laboratoires et jusque dans vos rédactions. On s'arrête maintenant sur la une et le dossier de Science et Avenir de ce mois de septembre avec vous Mathieu Novak, consacré aux maladies de l'esprit, bipolaire, dépression, anxiété. Quelles nouvelles pistes de traitement pour ces maladies mentales, psychiques qui affectent une personne sur cinq dans le monde, à commencer par ceux qui nous dirigent ou qui nous ont dirigés. C'est le constat du psychiatre Patrick Lemoine, auteur de La santé psychique de ceux qui ont fait le monde, qui s'exprimait ici même sur la bipolarité de quelques-uns des plus grands de ce monde.
La bipolarité est apparentée au génie. Les bipolaires sont plus intelligents que la moyenne, et énormément de prix Nobel, d'immenses artistes, tous les Mozart, les Einstein, tout ça en principe sont
bipolaires.
Donc c'est vraiment la pathologie qui mène au génie. Et je pense que Churchill, c'est le bon exemple, puisqu'il a eu un prix Nobel de littérature, il peignait, il a vendu des tableaux pour des sommes pharaoniques, et je pense que c'est peut-être le plus grand homme d'État, enfin en tout cas le plus grand politique de tous les temps. Avant tout le monde, il a tout compris à Hitler, tout compris à Staline. Il avait tout compris, cet homme. Et bien qu'ils aient passé leur temps à s'engueuler à Londres, il aimait beaucoup De Gaulle. De Gaulle l'engueulait aussi, mais il l'aimait beaucoup. Et c'est quand même leur couple improbable qui a permis de sauver le monde.
Bon, il n'y a pas que les grands de ce monde, il n'y a pas que Churchill qui fut un génial bipolaire. Une grande partie de la population, on l'a dit, une personne sur cinq risque de souffrir, une personne sur cinq dans le monde, de troubles psychiques ou mentaux. C'est le dossier et la une de Science et Avenir, Mathieu Novak, avec d'étonnantes pistes de recherche pour diagnostiquer, puis surtout pour traiter ces maladies. Très étonnantes ces pistes de recherche, quand on parle de folie, c'est finalement ces pistes de recherche qui semblent plus folles que les maladies elles-mêmes.
Oui, vous l'avez dit, ça va toucher une personne sur cinq dans le monde, et pourtant on s'est rendu compte qu'il y avait quatre fois moins de chercheurs qui travaillaient sur ces troubles. Alors dans ces troubles-là, on a parlé de troubles bipolaires, de dépression, d'anxiété, mais il y a aussi de la dépression, l'anxiété, la schizophrénie, les addictions, et il y a ces 3% de la recherche biomédicale. On s'est dit, c'est pas possible, est-ce que c'est une impasse, est-ce qu'il n'y a pas de recherche ou quoi? Et non, en fait, effectivement, comme vous le dites, il y a des pistes très intéressante. Et l'une des plus intéressantes, c'est qu'on se rend compte que ces troubles-là sont très souvent liés à ce qu'on appelle l'inflammation. Alors l'inflammation, c'est quoi? C'est la première réaction du corps quand il est attaqué par quelque chose d'extérieur. Donc c'est une réaction naturelle qui parfois dégénère dans les maladies auto-immunes, mais c'est une réaction naturelle.
C'est une inflammation du corps qui inflamme l'esprit. Enfin,
c'est un peu ça. En fait, dans ce processus, on produit des molécules qui vont coordonner la réponse immunitaire. Mais le problème, c'est que quand cette inflammation, elle ne cesse pas, quand elle continue, ça va avoir des effets neuropsychiques.
Donc ça, c'est vraiment une piste, une piste de diagnostic et de traitement.
Enfin. Absolument. C'est une piste qui est récente parce qu'elle remonte seulement à la fin des années 90, quand Robert Danzer, à l'Université de Texas, il a fait un nouveau champ de recherche qui s'appelle l'immunopsychiatrie.
L'immunopsychiatrie.
Voilà. Donc en fait, il a vu que quand on traversait une dépression, comment on est? On n'a plus de plaisir à rien, on n'a plus d'appétit, on est fatigué, on a un ralentissement général, et c'est exactement la même chose qui se passe quand le corps a une réaction inflammatoire. Donc en fait, il appelle ça le comportement de la maladie.
On a vu aussi très intéressante piste. Il y en a d'autres aussi, à part cette piste inflammatoire. Il y en a une, moi, qui m'a assez fascinée, qui m'a fait rigoler. C'est la piste de la médecine psychologique. psychédélique, on prendrait quoi, du LSD, des champignons,
ah, alors, et alors, puis on irait mieux pas. Des champignons, mais non, mais c'est très sérieux. Hein. En fait, il faut revenir aux origines. Une molécule comme le LSD, ça a été inventé par le laboratoire Sandoz, justement pour essayer de traiter des troubles psychiatriques. Le seul problème, c'est que là, on est dans l'après-guerre, et très rapidement, ces molécules, que ce soit le LSD, la kétamine ou la psilocybine, sortent des laboratoires, ils sont utilisés pour des usages récréatifs, totalement incontrôlés.
Et donc, ce sont des drogues utilisées comme des drogues. Hein.
Absolument. Et donc, tout simplement, les études se sont arrêtées parce que les produits ont été interdits. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'on voit que, par exemple, pour la dépression, on a 30% des personnes qui sont résistantes à tous les traitements. Et donc là, on s'est dit, bon, ben, revenons à ce qu'on a, aux premières pistes qu'on avait. Et donc, dès le mois de mars de cette année, la kétamine, par exemple, a été autorisée pour lutter contre la dépression aux États-Unis. Donc, ce qui se passe, ça se pratique pas à la maison, c'est un spray nasal qui se pratique à l'hôpital, parce que, effectivement, il y a toujours les hallucinations qui vont avec. Donc, ça doit être contrôlé par les médecins. Mais on s'aperçoit que c'est efficace dans 70% des cas.
Donc c'est une vraie piste, mais une piste à faire contrôler, hein, c'est ça,
absolument,
pas chez soi.
Absolument, non, c'est pour le moment c'est encore du domaine de recherche, et quand ça s'applique à l'hôpital, parce que les effets secondaires qui étaient recherchés pour les effets entre guillemets récréatifs sont toujours présents. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on ne met pas des petites doses régulièrement, mais au contraire on va essayer d'y aller avec des doses importantes et rapprochées. Donc il y a des recherches sur le LSD et la psilocybine en ce moment, et il y a même un centre de recherche psychédélique il s'appelle vraiment comme ça, hein, plaisante, pas un centre de recherche psychédélique qui s'est ouvert à l'Imperial College de Londres.
Ça vaudrait le coup d'un petit reportage dans ce centre de recherche psychédélique. Et il y a aussi d'autres pistes de recherche, alors soit via le nerf vague, soit, c'est ce que j'ai lu dans Science et Avenir, soit via l'intelligence artificielle, des casques de réalité virtuelle pour lutter contre les phobies. Enfin, il y a d'autres pistes aussi.
Oui, c'est-à-dire qu'on essaie de chercher tous azimuts, parce que comme je vous le disais, donc il y a un certain nombre de personnes qui résistent à tous les traitements. Donc la réalité virtuelle, on l'essaye pour essayer les gens de se mettre dans une autre réalité. Et effectivement, il y a aussi des stimulations. Alors, la stimulation du nerf vague, c'est quelque chose qui est utilisé depuis quelques années contre l'épilepsie. Et puis on s'est aperçu que certaines personnes dépressives, traitées comme ça, allaient mieux. Donc aujourd'hui, on essaye vraiment particulièrement pour la dépression. On fait aussi de la stimulation cérébrale profonde. C'est des choses qui sont utilisées pour Parkinson. Et que maintenant, semble avoir un effet aussi très positif dans les cas de dépression sévère. Il y a de la stimulation magnétique transcrânienne, et aussi on ressuscite une technique qui avait très mauvaise presse, qui sont les électrochocs. Donc en fait, l'idée, c'est de provoquer des petites crises d'épilepsie sous anesthésie, et à la surface du cerveau, on fait des petits électrochocs, mais dans 50% des cas, ça permet de soigner les personnes.
Ouais, de reprogrammer un peu
reprogrammer,
le cerveau.
Voilà. L'idée, c'est que ce que disent les patients, c'est que ça fait une sorte de reset, de reboot. On redémarre, un peu comme l'ordinateur qui ne marche plus, on redémarre, ça va mieux. Et c'est les patients remontent cette idée-là, que leur cerveau vient de redémarrer et qu'ils se sentent mieux.
Piste étonnante donc à suivre, hein, pour porter aussi un autre regard, hein, sur toutes ces maladies psychiques, avec bien sûr plein de conseils dans ce numéro de Science et Avenir pour une meilleure hygiène de vie, parce que ça joue énormément là-dessus aussi. Tiens, je signale en même temps un petit nouveau chez Science et Avenir, c'est Science pour les jeunes, avec les super pouvoirs du corps humain. Mais pour ce dossier très complet sur les maladies de l'esprit, les nouvelles pistes prometteuses pour traiter ces maladies, c'est à lire dans ce numéro de septembre de Science et Avenir, dont nous avons quelques exemplaires à vous offrir. Chers amis auditeurs, saints d'esprit ou pas, c'est la question qui se pose à l'écoute de San Severino sur RFI, Malade Mental.
Les mêmes stars ni les mêmes idoles. Toi tu aimes Casavets, Dali, Andy Warhol. Moi j'aime la bande à Bono, Ravachol et Landru. Tous les tapés, les fondus. Scandale dans un enterrement ou dans un mariage. Je fais tâche dans une famille normale. Je ne suis pas ton beau-frère ni ton gendre idéal. Je suis un malade mental. J'assassine lâchement, sans mobile apparent. Pas de place pour l'amour, pour une liaison, pas le temps. Je suis plus cadavre en décomposition que rendez-vous à 16h à Nation. Désolé, tu ne comprendras pas, baby. Le psychisme complexe d'un tueur en série. Je ne sors pas avec toi, je sors de l'hôpital. Je suis un malade mental. Je ne suis pas ton boyfriend le plus sentimental. Je suis un malade mental. Je suis un malade mental. Psychiatrie, psychiatrie, psychiatrie. psychiatrie, psychiatrie, psychiatrie. Mûr pour une liaison amoureuse, votre client maître a des manières douteuses. Quand il aborde une rouquine ou une brunette, c'est pour lui couper la tête. Ne le confondez pas avec n'importe lequel de vos délinquants ou détraqués sexuels. Le mien est un esthète, pas un truand banal, c'est un vrai malade mental. C'est un vrai malade mental. Ces soirs-là, il n'a qu'un but, c'est l'effraction. Il suit les victimes chez eux et attention, il sonne à l'interphone et puis il respire tout près du microphone.
Là-haut dans la malade mentale, sans Severino sur RFI. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse sur les ondes de RFI et dans la recherche, qui consacre son dossier dans son numéro de septembre, Philippe Pajot, à la traque des ondes gravitationnelles en provenance de la fusion de deux trous noirs, des phénomènes cataclysmiques qui sont de plus souvent détectés. Été repéré par les interféromètres LIGO et Virgo.
Le 28 août, c'était en fin de semaine dernière, LIGO, l'observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser, a détecté deux signaux pouvant provenir d'un seul et même événement cosmologique.
LIGO a détecté deux signaux qui représentaient des coalescences de trous noirs supermassifs, deux signaux dans un intervalle de 21 minutes. Ce qui est assez inhabituel, hein, parce que normalement, il faut attendre deux jours, parfois 10, pour détecter deux événements. On se demande donc s'il s'agit d'une coïncidence, s'il y a eu dans deux régions différentes deux couples de trous noirs qui ont fusionné et produit des ondes gravitationnelles. Mais il y a une autre possibilité. Peut-être que nous avons détecté là un seul événement, mais que le signal s'est découplé sous un effet de lentille gravitationnelle, ou comment la gravité d'un objet massif déforme le chemin de la lumière.
Pas vraiment de réponse pour le moment sur cette nouvelle détection de fusion de trous noirs détectée par LIGO dans cette troisième campagne d'observation des ondes gravitationnelles, Philippe Pajot, mais c'est quand même une traque, celle des ondes gravitationnelles, qui s'accélère et vous consacrez le dossier de la recherche à la fois à toute cette histoire très rapide, hein, ça fait depuis 2016 hein, qu'on les détecte.
2015, puis, le premier détection.
2015, la première détection, et puis ça s'accélère, on ne cesse d'en détecter.
Alors oui, c'est vraiment un émerveillement face à cette ingéniosité qu'il a fallu d'ailleurs d'abord pour construire ces instruments capables, je le rappelle, de détecter des variations de distance qui sont plus petites qu'un millième de la taille d'un noyau atomique. Donc c'est quand même quelque chose de complètement fabuleux.
Oui, c'est à la fois des phénomènes cataclysmiques monstrueux, mais en même temps qui sont extrêmement...
Effectivement, l'effet que ça induit sur la Terre est très 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 petit. Et donc c'est pour ça qu'on a un article qui retrace un siècle de cette épopée scientifique incroyable qui aboutit effectivement en 2015 à cette première détection. On a interrogé notamment Alain Briet, qui est
celui qui a conçu le...
Voilà, il est à l'origine avec les Italiens de la conception de l'observatoire européen qui s'appelle Virgo, qui est situé en Italie près de Pise, et qui raconte qu'au départ personne n'y croyait. En fait, c'est complètement incroyable. C'était tellement fou comme idée que les gens, il allait voir les gens en disant de toute façon votre truc marchera jamais, c'est même pas la peine. Et il a persévéré et effectivement, et Virgo et LIGO, équivalent aux États-Unis, fonctionnent très bien aujourd'hui. Alors ces ondes, c'est quoi d'abord? C'est quand effectivement ces objets très massifs, qui sont des trous noirs ou des étoiles à neutrons, rentrent en collision l'un avec l'autre, coalescent. Hein. Il y a effectivement des sortes de vibrations de l'espace-temps, des ondes de l'espace-temps qui s'étendent dans le cosmos et qui arrivent parfois jusqu'à la Terre.
Et en quoi ça ouvre? Parce qu'en fait, non seulement ça a prouvé, en fait, pouvoir détecter ces ondes gravitationnelles, on a prouvé une théorie qu'on n'arrivait pas à prouver, c'est incroyable, mais qu'est-ce que ça nous montre et pourquoi ça ouvre? On a dit que ça ouvrait une nouvelle fenêtre hein, sur astronomique.
Effectivement, sur l'astronomie. Alors ça c'est une nouvelle fenêtre sur l'univers, parce que d'abord on avait d'abord accès à l'univers par la lumière, hein, c'est les ondes électromagnétiques qui sont utilisées pour voir, mais aussi pour la radio, pour transmettre les ondes radio, et là on a un nouveau média qui sont ces ondes gravitationnelles qui permettent d'accéder à ces objets qu'on ne voyait pas auparavant et à ces informations qu'on n'avait pas auparavant. Alors effectivement, comme vous le disiez, la campagne d'observation, une nouvelle campagne d'observation, la troisième, a démarré en avril dernier. Donc on revient dans ce dossier sur les fusions de trous noirs qui ont été observées dans les années précédentes. Et depuis avril, en gros, on a presque une fois par semaine, en gros, une fusion qui se produit. Donc il y a à peu près depuis une vingtaine d'événements qui ont été observés. Alors soit deux trous noirs qui rentrent, qui fusionnent, soit un trou noir et une étoile à neutrons. Les publications n'ont pas été, scientifiques n'ont pas été faites. Là, en ce moment, les astrophysiciens sont réunis à Varsovie cette semaine, justement, pour en discuter. Il y aura sans doute des annonces qui seront faites très bientôt.
Et ça nous apprend, ça va nous apprendre, enfin, c'est un premier pas, mais ça va nous apprendre des choses sur ces trous noirs, sur ces phénomènes.
Ça donne plein de nouvelles observations, d'informations, d'une part sur les trous noirs, d'autre part sur les étoiles à neutrons, sur des phénomènes comme la vitesse des ondes gravitationnelles, qui sont un peu fondamentales, sur l'expansion de l'univers, par exemple. Donc il y a toute une nouvelle astrophysique qui est en train de s'ouvrir là-dedans. Et ce qui est aussi assez intéressant, donc on a aussi un article de Sarah Antier, qui est une astrophysicienne de cette collaboration Virgo, qui explique qu'il y a une mobilisation des astrophysiciens qui ne sont pas spécialisés dans le professionnel nécessairement, mais qui vont, dès qu'il y a une alerte qui a été faite, parce que ça c'est une nouveauté dans cette nouvelle campagne d'observation qui a débuté en avril, dès qu'il y a une alerte qui est faite, il y a une alerte qui est envoyée dans les observatoires du monde entier pour justement que ce réseau d'observatoires se dirigent leurs instruments optiques classiques, je dirais, vers le ciel, et pour voir si il y a une contrepartie de lumière dans les différentes longueurs d'onde.
Et là, vraiment, il y a une collaboration, une ouverture entre tous les astrophysiciens
Exactement,
du monde autour de ces ondes gravitationnelles.
De mobilisation planétaire qui s'est lancée. Et donc, il y a plusieurs réseaux qui se lancent. Donc, il y a un réseau qui s'appelle Grand-Ma, comme Grand-Maman, qui est en train de se lancer, qui regroupe une quinzaine d'observatoires dans le monde. Il y a des Américains qui ont, ça c'est un réseau plutôt européen, et des Américains qui ont également fait un réseau. Et alors pour l'instant,
il n'y a pas de résultats pour le moment,
rien publié. Il y a peut-être des résultats qu'on ne connaît pas, qui vont être annoncés, mais il y a des choses en cours, et donc on attend. Croise
vous
les doigts pour que.
On suit avec impatience ces résultats.
Et donc, juste pour dire que cette campagne va durer jusqu'au mois de mars 2020, et donc il va y avoir un monceau de données, d'observations qui vont
être. D'autres détections, de fusions de trous noirs au cœur de la fabuleuse traque des ondes gravitationnelles. Le dossier complet sur donc, l'histoire, le présent et l'avenir de cette nouvelle fenêtre sur l'univers, c'est à lire dans La Recherche de ce mois de septembre, dont nous avons quelques exemplaires à vous faire gagner. Chers amis auditeurs, si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook, autour de la question sur RFI, on s'arrête maintenant sur une nouvelle voix de la pop québécoise, Claude Pelgag, qui, l'air de rien et sans pathos, nous amène à nous interroger sur un sujet terrible, le cancer, épidémie ou pas. C'est à suivre avec vous, Caroline Tourbe, dans Science et Vie. Mais d'abord, on écoute Claude Pelgag sur RFI, La fièvre des fleurs.
Je l'ai connu en fièvre vers la fin de sa vie. Je l'ai connu en fièvre vers la fin de sa vie. Je lui ai fait une tresse dans ses cheveux blancs qui traînaient partout par terre dans toutes les pièces de la maison. Elle m'a dit je veux m'évader, je suis tannée de manger toujours la même chose. J'aime ton souvenir comme le chocolat. Tu portes un nom de fleur qu'on apprend par le cœur. J'aime ton souvenir comme le chocolat. Tu ressembles de plus en plus à quelqu'un que je connais pas.
Elle est partie, elle est partie, elle est partie. La québécoise Claude Pelgag sur RFI, hommage à tous ceux, à nos amis, victimes du cancer, autour de la question comment la science infuse et se diffuse. On se demande avec vous, Caroline Tourbe, c'est le dossier de Science et Vie, pourquoi tant de cancers? Peut-on, doit-on parler d'épidémie? Que cache cette épidémie? Avant d'écouter votre enquête très complète, je propose de revenir sur la réponse que nous a donnée ici même sur RFI le biologiste de l'évolution Frédéric Thomas, qui travaille à une autre approche du cancer, qui co-dirige le Centre de recherche écologique et évolutive sur le cancer au CNRS à l'Université de Montpellier.
Clairement, oui, il y en a plus. Par contre, il faut vraiment regarder les statistiques en détail. Tout simplement parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le cancer est une maladie qui augmente avec l'âge. Hein. Plus on vieillit, plus on augmente nos chances d'avoir un cancer. Donc aujourd'hui, évidemment, on vit plus longtemps. Donc tout le monde est content aussi de vivre plus longtemps. Donc c'est le prix à payer, c'est aussi d'avoir plus de cancers. Bon. Il y a plein de maladies que l'on soigne beaucoup mieux qu'auparavant. Des maladies cardiovasculaires, maladies infectieuses. Bon. Donc du coup, les maladies qu'on soigne...
Ça laisse le champ libre au cancer.
Exactement. Qu'on soigne moins bien, bah, de facto, on va retrouver dans les statistiques, forcément plus de cancers. Bon. Quand on corrige par tous ces effets potentiellement confondants, la réponse c'est oui, effectivement, il y a plus de cancers à âge corrigé, à âge identique. Et là, l'explication, c'est clairement notre mode de vie qui est en question.
Notre mode de vie, notre environnement.
Notre environnement. Quand je dis notre mode de vie, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est exposé comme jamais à des mutations, à des agents mutagènes.
Caroline Tourbe, après avoir écouté Frédéric Thomas, que cache cette augmentation du nombre de cancers dans les pays développés, hein, on vient de le c'est annoncé, c'est vraiment la première cause de mortalité. Vous avez enquêté dans Science et Vie, et votre réponse, elle rejoint un peu celle du chercheur Frédéric
Exactement,
Thomas.
Exactement, hein. Oui. Philippe Thomas, il est très clair dans ce qu'il dit. C'est vraiment dans l'importance des chiffres et l'effet, le choc qu'on a quand on les entend, il faut retrancher de ça, en effet, l'augmentation de l'âge de la population, et puis également tout ce qui est les techniques de diagnostic qui permettent de voir des tumeurs qu'on ne voyait pas forcément avant, d'être sûr du diagnostic, donc d'avoir plus de cas de cancer. Néanmoins, quand on retranche tous ces deux biais, entre guillemets, et bien on s'aperçoit qu'il y a quand même des augmentations. Et là encore, il le dit très bien, c'est lié à notre mode de vie. En fait, ça devient très intéressant, c'est quand on se penche par type de cancer. Quand on regarde cancer par cancer, quelles sont les raisons? Et là, on voit qu'il y a des destinées très différentes, des choses qui s'expliquent bien, d'autres qui restent très mystérieuses.
Selon les types de cancers.
Selon les types de cancers.
Selon le sexe aussi.
Exactement.
Parce que chez les femmes,
chez les hommes,
sont en grande augmentation chez les femmes.
Exactement. Pour certains types de cancers, c'est très clair. Par exemple, le cancer du poumon. Donc, les chiffres sur lesquels nous, on s'est basé à Science et Vie, c'est les chiffres en France. Mais c'est des chiffres qui sont assez comparables dans d'autres pays occidentaux et même dans d'autres pays dans lesquels il se passe une chose qui ne se passait pas auparavant, c'est que les femmes fument de plus en plus et que le fait de fumer, alors que les hommes ont plutôt tendance à diminuer leur consommation de tabac. Donc on voit vraiment les courbes qui se comportent de façon très différente. C'est-à-dire le cancer du poumon chez les hommes se stabilise, celui chez les femmes augmente énormément, et ça c'est quelque chose qu'on peut tout à fait expliquer. Ce qui est intéressant encore sur le cancer du poumon, c'est qu'il y a une différence dans le type de tumeur. Le type de tumeur qu'on voyait avant, qui étaient les plus nombreuses avant, n'est plus la même. C'est parce que c'est les cigarettes qui sont différentes, celles qu'on fume maintenant ont des filtres, et ça a tendance à faire inspirer plus fortement la fumée, donc à faire descendre en gros la zone
cancéreuse. Plus loin.
Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est plus dangereux que le diagnostic est moins bon, mais juste même le type de cancer a été transformé par le type des cigarettes qu'on fume.
Donc là, on arrive à l'expliquer, en l'occurrence,
voilà,
cette épidémie, avec tous les guillemets qu'il faut mettre de cancer.
Et sur d'autres cancers, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, pour la France, mais ça dépend encore des pays, pour la France, il y a le pancréas, et là, on est sur une spécificité française totalement inexpliquée, c'est-à-dire qu'on a des chiffres avec une incidence, donc un nombre de nouveaux cas qui augmente très nettement.
Et puis c'est un cancer très
C'est un cancer qui est compliqué à soigner. Mmh. Il y a beaucoup de recherches autour de ce cancer, beaucoup de propositions de nouveaux traitements, mais ça reste encore un cancer dont il est difficile de combattre. Et donc on a de plus en plus de cas, et ça, il n'y a pas de piste. On ne comprend pas pourquoi en France on a des chiffres comme cela. Il y a d'autres types de cancers aussi, c'est les cancers chez l'enfant, et des types de leucémie où on voit qu'il y a des choses qui se passent et qu'on a n'arrive pas à expliquer. Ça reste des cancers, là, dans le cas des cancers de l'enfant, des cancers qui restent rares. Donc c'est aussi difficile de tirer des grandes tendances ou des grandes conclusions avec des chiffres qui sont pas très élevés.
Mais quand même, la piste environnementale, il y a quelque chose qui se passe, quoi.
D'autant plus que pour les cancers, tout ce qu'on va dire cancer du sang, même chez l'adulte, il se passe des choses étranges. Et il y a comme une sorte de changement du profil général de ces types de cancers. Certains de ces cancers vont diminuer, certains lymphomes vont diminuer nettement, alors que d'autres types de lymphomes, eux, vont augmenter. Et dans un temps assez court, parce que c'est des données qui ont une vingtaine d'années, un peu, où on est entre 20 et 40 ans, mais il se passe quelque chose. Il y a une transition sur ces cancers-là dont on ne connaît pas les causes. On a là des propositions qui sont faites par les chercheurs, en effet, liées à des polluants extérieurs ou des modes de vie qui vont de l'alimentation à la sédentarité. Il y a des tas de choses comme ça qui ont été profondément transformées ces dernières années, ces dernières décennies, qui pourraient expliquer ces changements.
Mais en tout cas, il y a plus de cancers et les pistes, comme celles dont nous parlait ici Frédéric Thomas ou d'autres, c'est qu'il faut avoir quoi, une autre approche sur le cancer inévitable, apprendre à vivre avec. Enfin, ce serait quoi les pistes? Comment faire face à toutes ces inconnues, ces interrogations et ces cancers qui frappent de plus en plus de monde?
Il y a deux points. Il y a comprendre d'où ils viennent et puis à les combattre. Alors sur comprendre d'où ils viennent, là, c'est vraiment le cœur du papier de Science et Vie. C'est vraiment savoir ce qui se passe et donc si c'est possible de les éviter. Donc je redis sur la cigarette, sur aussi l'obésité qui a un lien net sur la recrudescence des cancers colorectaux et sur aussi la sédentarité dont on sait que même pour le cancer du sein par exemple, ça ne vient pas forcément à l'esprit, mais pour les femmes et le cancer du sein, on sait que la sédentarité c'est un facteur de risque. Donc sur cela on sait, on
peut
agir.
Donc il faut bouger, il faut faire attention à son mode de vie.
Sur tous les autres, il y a des suspicions. Voilà, des suspicions fortes, on n'a pas mis le doigt précisément sur quelque chose. Et pour ce qui est des traitements, mais ça ferait l'objet d'un dossier, ça fera sûrement l'objet d'un dossier passionnant, il se passe plein de choses, il y a plein de propositions, et Philippe Thomas, avec son approche évolutionniste, c'est extrêmement intéressant de voir le cancer, de faire un pas de côté pour le voir différemment, pour le combattre différemment et sûrement beaucoup mieux.
Et en toute connaissance de cause, dossier complet en tout cas et analyse détaillée sur les vrais chiffres du cancer à lire dans Science et Vie de ce mois de septembre, dont nous avons, vous le savez, quelques exemplaires à vous faire gagner, chers amis auditeurs. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse, on prend un petit peu de hauteur pour observer l'univers en ondes radio, évidemment sur RFI et dans Ciel et Espace. Ce sera juste après avoir écouté les Britanniques Alternative Ride et leur morceau Pulsar. Du groupe Ride sur RFI autour de la question comment la science infuse et se diffuse dans Ciel et Espace en cette rentrée. Philippe Hénard et je vont nous entraîner sur le plateau de Bure dans les Hautes-Alpes pour découvrir un observatoire incroyable qui est en passe de devenir le plus puissant de l'hémisphère nord dans son domaine, l'univers des ondes radio. Alors pourquoi et comment? Parce qu'en plus c'est une sacrée histoire.
Oui, c'est une sacrée histoire et c'est un observatoire que nous, à Ciel Espace, nous connaissons évidemment depuis de nombreuses années puisqu'il ne vient pas d'être construit, il est juste en évolution. Je pense que nos auditeurs un peu partout dans le monde connaissent bien ALMA, qui est ce fameux réseau d'antennes millimétriques de 66 antennes sur un plateau à 5000 mètres d'altitude dans les Andes.
Au Chili.
Alors c'est un projet énorme, c'est de la big science, hein. Ça a coûté $1,5 milliard. Et bien là, dans les Alpes, ça faisait plusieurs années qu'il y avait 6 antennes comme ça de 15 mètres millimétriques qui marchaient aussi en réseau. de manière à faire ce qu'on appelle un interféromètre, c'est-à-dire qu'on couple la lumière, en tout cas les signaux de ces 6 antennes, disposées d'une certaine manière sur un plateau, pour obtenir un télescope virtuel beaucoup plus grand que chacune de ces antennes. Donc ça fait un télescope virtuel très gros. Eh bien, au milieu des années 2000, la décision a été prise d'augmenter la puissance de ce réseau en faisant 6 autres antennes. Alors actuellement, il y en a une dizaine. La 10e est en construction. Donc on est allé voir comment ce réseau a évolué. Et c'est un endroit tout à fait magique. J'y avais été, moi, il y a quelques années. Mm-hmm. Là, cette fois, c'est Émilie Martin, notre reporter, qui y a été. C'est un endroit magique parce que c'est le seul plateau à 2500 mètres d'altitude les Alpes.
Ah, voilà.
Dans les Alpes, il y a des sommets, évidemment, très hauts, mais des plateaux comme ça qui permettent d'étendre comme ça un réseau d'antennes.
Oui,
ça,
parce
ça
qu'on n'existe pas. On l'a vu avec notre invité Pierre Léna, évidemment, qui nous parlait d'interférométrie. Effectivement, c'est un réseau de plusieurs télescopes gigantesques qui permet
faut
de.
Quand même
de
que ça soit relativement plat. Vous pouvez pas mettre ça sur les flammes d'un pic acéré, sinon ça va rien donner. Donc il y a des rails sur lesquels ces antennes lourdes de plusieurs dizaines de tonnes se déplacent et vont se positionner jusqu'à avoir un écartement. Alors les fameux rails dont je vous parle, c'est une espèce de croix, de chemins de fer qui se croisent comme ça, avec un écartement maximal de 1,6 km. Alors par exemple à Alma, c'est 16 km avec 70 antennes.
Au Chili, c'est beaucoup plus énorme. Mais sur ce plateau alpin, ça peut être à plusieurs kilomètres.
Voilà, c'est 1,5 km encore, 1 km et 600 mètres. Mais c'est déjà énorme parce qu'en fait, en dehors d'Alma, dont on parle beaucoup, c'est le deuxième réseau et il a un autre avantage, c'est qu'il est dans l'hémisphère nord et il y a tout un tas d'astres qui ne sont pas accessibles depuis le Chili. Le ciel boréal n'est pas complètement visible depuis là-bas. Donc
à partir de cet observatoire, on pourra quoi ?
On pourra observer des astres qui ne sont pas observables depuis le Chili. Observer aussi les mêmes astres, mais avec une subtilité différente, c'est-à-dire que même si la résolution est bien moindre qu'à Alma, la sensibilité est tout de même très très bonne, et surtout on peut observer dans plus de longueurs d'onde, ça c'est dû aux détecteurs qui sont placés au foyer des instruments, on peut observer dans plus de longueurs d'onde qu'à Alma. Donc, si vous voulez, c'est de la cavalerie légère, ça a coûté une cinquantaine de millions d'euros.
C'est rien par rapport à Alma.
Et le rapport qualité-prix est exceptionnel. Alors c'est un plateau, c'est un observatoire qui est bien chez nous, qu'on ne connaît pas, mais qui a une histoire un peu difficile aussi. La mise en place de ce télescope a pris du temps. Il y a eu des accidents dramatiques. Il y a un téléphérique qui est tombé en 1999, ça a fait des morts, il y a un accident d'hélicoptère, etc. Les gens qui sont là-haut aujourd'hui ont tenu à mener ce projet au bout. Ils ont vraiment donné de leur personne et aujourd'hui, ils commencent à en récolter les fruits. Et j'ajoute que cet observatoire étonnant, il va intégrer d'ici l'année prochaine un autre observatoire qui marche en mode alternatif, qu'on appelle le Event Horizon Telescope, dont j'ai déjà parlé ici.
Absolument.
Qui est le réseau de télescopes, alors cette fois étendu à toute la planète, qui permet d'essayer de faire des photos du trou noir de la galaxie M87. On a déjà vu une photo qui a été publiée, mais aussi du trou noir central de la Voie lactée. Et avec ces 12 antennes, enfin, qu'elles seront là, mais en fait, déjà avec ces 10 antennes, ça fait une sensibilité énorme. Il est placé dans un endroit qui est au bord, si vous voulez, du réseau planétaire, donc qui donne un peu plus de résolution à ce réseau qui s'étend jusqu'en Antarctique, au Mexique et à Hawaï. Donc ça va renforcer, si vous voulez, ce Event Horizon Telescope qui va refaire une campagne l'an prochain pour essayer de faire de nouvelles photos plus résolues
du trou noir central
de la Voie lactée et de la galaxie M87.
Extraordinaire, on ne sait pas, un petit cocorico, il faut vraiment suivre cet observatoire.
Non, c'est vrai, on en parle très peu.
C'est plateau qui s'appelle Noema, c'est
Noema,
ça
Noema, c'est l'observatoire, le N, c'est pour hémisphère nord, en fait, en quelque sorte.
D'accord, l'observatoire de l'hémisphère nord le plus puissant. Alors, pour suivre la naissance de cet observatoire géant, reportage à lire dans Ciel et Espace, dont nous avons aussi quelques exemplaires à vous faire gagner, amis auditeurs, fans d'astronomie, et vous êtes nombreux à partager cette passion avec nous. On se pose tout de suite sur RFI, un peu doucement, à l'écoute d'un autre bricoleur, Ricky Hollywood. Sur RFI, il y a trop de bruit.
Trop de bruit. Thank you.
Ricky Hollywood sur RFI autour de la question comment la science infuse et se diffuse. Protégeons nos oreilles sur terre comme sur mer. Vous avez peut-être vu, amis auditeurs, ce fabuleux film Le Chant du Loup et les prouesses d'une oreille d'or dans un sous-marin. La guerre acoustique sous-marine ne fait que commencer. Mathieu Nova, qu'on découvre dans Science et Avenir, qu'on y enrôle même les dauphins, les crevettes et les mérous.
Oui, disons qu'on arrive à... On a un petit problème en ce moment, c'est que dans les choses qu'on essaie d'entendre dans la mer, on essaie de séparer qu'est-ce qui est un sous-marin, un animal. Bon, il y a un nouvel acteur, ça s'appelle des AUV. En fait, ce sont des petits drones subaquatiques qui ont soit des missions d'espionnage, soit des missions d'attaque. Et ceux-là, on les voit quasiment pas au sonar et on arrive très très mal à
les détecter.
À les détecter. Et donc, même ceux, les personnes spécialisées dans l'écoute des sons, les oreilles d'or, comme vous en parliez, ils ont du mal à y trouver. Donc on essaie de leur trouver une aide. Et cette aide, elle pourrait être animale. Alors les chercheurs, ils parlent de capteurs vivants aquatiques persistants. Concrètement, ce sont des animaux. Alors on travaille notamment avec des mérous. Les mérous, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des sons, des boum boum, très graves. Mmh. On prend des mérous, on les sort, on les met en aquarium et on les met en présence d'un petit drone comme ça. Et on laisse un ordinateur, une intelligence artificielle, essayer de comprendre comment ils changent le son qu'il fait.
Et après, parce on les que le mérou, il le sent, il les sent.
Oui, le mérou, en fait, tous les animaux, dès qu'ils ont leur environnement qui est perturbé, est-ce que c'est un mouvement, est-ce que c'est un signal lumineux, un signal sonore, ils réagissent. Eux, ils réagissent. Donc, on travaille avec les mérous, on travaille aussi avec ce qu'on appelle des crevettes pistolaires. Alors, c'est des crevettes qui ont une pince qui est très, 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 très grosse et qui claque, claque, qui fait des petits claques comme ça. Et elle aussi, quand son environnement est perturbé, on essaie de comprendre comment, mais en tout cas, on peut l'avoir et peuvent nous servir de taupe, d'indicateur, dire attention, il y a quelque chose qui arrive.
Dans la guerre acoustique, tout est bon à prendre, notamment les animaux, c'est à suivre dans Science et Avenir. Alors, on a cité le chant du loup, c'est un autre chant du loup que vous nous faites entendre dans la recherche, Philippe Pajot, c'est celui du loup éthiopien, méconnu et surtout menacé par la destruction de son environnement.
Exactement, c'est le canidé le plus rare au monde, il reste 500 individus.
Dans cette zone alpine éthiopienne.
Exactement, c'est dans le parc national du Mont-Balais. Donc là, on parlait de plateau. Là, on est un peu plus haut que 2500. On est entre 3500 et 4000 mètres, donc vraiment très haut. Donc il y a eu une espèce endémique et toute une faune et une flore endémique également de ces plateaux. Et malheureusement, effectivement, par les transformations subies et l'action de l'homme sur le territoire et le climat, il faut savoir qu'en Éthiopie, la population a été multipliée par 6 depuis 1950. Là, on avoisinait quand même les 100 millions. Les surfaces cultivables ont augmenté, les animaux d'élevage ont augmenté, et sans compter la guerre, les armes de guerre aussi qui font des dégâts.
Donc, ce loup éthiopien est menacé, mais il y a quand même une lueur d'espoir. C'est-à-dire que il y a une protection qui s'est mise en marche et qui a l'air de fonctionner.
Effectivement, il y a eu deux phases de protection. D'abord, depuis 1995, un programme de conservation plutôt du côté recherche qui a commencé. Et depuis 2011, il y a effectivement un programme national effectivement en Éthiopie qui s'est lancé avec... des tas d'acteurs. Donc là, c'est un article qui a été écrit par deux biologistes, Annalisa Plaitano et Elisa Signorile, qui est une zoologiste. Et grâce à ce travail, il y a quand même dans les zones dans lesquelles il est protégé, il y a eu une mutation de son expansion qui a été de 87%. Donc c'est pas mal, mais ça reste quand même un équilibre extrêmement fragile. D'autant que c'est vrai que c'est une espèce emblématique, mais c'est aussi la retombée sur les autres espèces
évidemment, parce que
voisinage.
C'est un écosystème. En tout cas, à découvrir dans la recherche, ce loup éthiopien pour qui tout n'est pas encore perdu. Alors on peut espérer aussi pour la nuit, Philippe Hénarejos, oui, la nuit qui est menacée par la pollution lumineuse. Ce sont les astronautes qui nous ont alertés, mais pas seulement, hein, ça menace tout le vivant. C'est le dossier de Ciel et Espace.
Oui, c'est un dossier que, là encore, nous suivons depuis plusieurs années, donc on a voulu refaire un point pour savoir si les loups vont hurler, certes à la pleine lune, mais aussi sous la Voie lactée, ce qui va encore l'avoir. Alors, de moins en moins, on sait que la pollution lumineuse, c'est-à-dire tout ce qui est éclairage public ou publicitaire qui brille la nuit, chasse de plus en plus les étoiles de notre ciel. C'est une perte de 1 à 2% chaque année. Ça continue comme
on
ça.
On voit de moins en moins.
Avec une évolution il y a quelques années qui était arrivée avec un espoir, un faux espoir qui était celui des lampes qu'on dit LED. Qui promettaient à la fois beaucoup d'économies énergétiques et éventuellement un éclairage plus intelligent. Ça n'a pas été le cas. Les LED ont une lumière bleue, enfin celles qui ont été utilisées ont une lumière bleue, qui ont fait continuer cette pollution lumineuse, d'autant que la perspective des économies les ont généralisées. Donc,
De plus en plus d'ampoules. Donc
alors, il y a quand même des raisons d'espérer. Ce que nous constatons, c'est que la France est plutôt le bon élève. Il commence à y avoir des réserves de ciel étoilé qui
En France. Il y en a une sur le continent africain, hein, du côté du Maroc, à l'observatoire du Kemden, où nous avons été.
En même temps, ça fait un peu tache d'huile, finalement, dans les zones qui ne sont pas du tout des réserves et qui sont urbaines. Et les élus locaux, alors qu'ils étaient réticents au départ à ces questions-là, puisqu'il faut changer le parc d'éclairage, etc., ce sont eux maintenant, dans une certaine mesure, qui sont demandeurs pour avoir des solutions, parce que effectivement, ça touche le bien-être de leurs concitoyens.
Et de tout le vivant. Donc vive les réserves de ciel étoilé et vive la prise de conscience de cette pollution
lumineuse. Ça augmente toujours, mais ça pourrait s'inverser.
À lire dans Ciel et Espace. Allez, on va terminer, Caroline Tourbe, par un soupçon de matière noire. C'est la une et le dossier de Science et Vie. Bon, on est loin d'en avoir fini avec cette monstrueuse énigme de l'univers.
Oui, on a titré l'univers caché, la matière noire n'est pas ce qu'on croyait. Parce que c'est certain, on sait que quelque chose pèse sur l'univers à hauteur de 85% de sa masse, mais on ne sait pas ce que c'est.
Les particules
qu'on imaginait pouvoir trouver ces dernières décennies, on ne les a pas trouvées. Donc on part sur un dossier où on se demande si la matière noire était peut-être un astre ou alors un pur effet géométrique, une gravitation différente. On passe cette proposition de chercheurs qui leur donnent le tournis et qui sont passionnants.
Qui donnent le tournis et qui lèvent à peine le voile sur ce mystère dont on va continuer à parler, le mystère de la matière noire. Merci Caroline Tourbe, merci Philippe Pajot, Mathieu Novak, Philippe Hénarejos. On se retrouve le mois prochain autour de vos magazines respectifs. Science et Vie, La Recherche, Science et Avenir et Ciel et Espace, magazines dont nous avons encore quelques exemplaires à vous faire gagner. Chers amis auditeurs, ils sont pour vous si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook en précisant bien votre adresse postale. À bon entendeur. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur RFI Pure Radio, mais aussi c'est une nouveauté sur Spotify. Au plaisir de vous retrouver lundi, chers amis auditeurs et internautes, avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses pour partager ensemble de nouvelles interrogations sur notre aventure humaine et scientifique. Surtout, portez-vous bien, oui, et restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Dans quelques instants, les dernières nouvelles du monde sur RFI.